Alors, question du péché originel. Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance, des maux dans la nature qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures, et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal? La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal et la surabondance de la grâce. Nous devons donc approcher la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. Alors ça, c'est premièrement le rappel que Dieu n'a pas créé le mal. Donc on avait vu ça, il n'y a pas un Dieu du bien, un Dieu du mal, bon ça, comme le pensaient les manichéens par exemple, bon, mais que profondément, tout ce qui est, sous l'aspect où ça est bon. Et Dieu a créé toute chose bonne. Et ça, je pense que c'est bien de se rappeler ça, d'avoir ce regard contemplatif qui permet de revenir à la bonté de toute chose. Donc ça, je pense que c'est une preuve. Mais en même temps, on se dit, ben voilà, on constate dans notre expérience commune la question du mal et du mal moral. D'où vient ce mal? Bon, c'est la question qui est posée, etc. Et ce que dit le catéchisme, c'est intéressant de dire, pour comprendre le mal moral, c'est d'abord partir du Christ. C'est-à-dire que c'est en voyant l'œuvre de rédemption accomplie par le Christ que l'on peut prendre conscience de ce qu'est le mal moral. Et de comment le Christ, au fond, est venu. On dit, mais pourquoi est-ce que j'ai le péché originel? Moi, j'ai rien demandé. Donc, c'est par génération, par transmission. Hein? Eh bien, c'est justement, c'est quelque part, c'est cette parole un peu dure et un peu forte de saint Paul qui dit hein, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour les sauver tous. C'est à partir du salut du Christ, c'est comme par en regardant, j'allais dire, dans le rétroviseur, à partir de ce salut du Christ que je comprends que à quel point il est au fond quelque part bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur. Et mieux vaut Adam et l'homme sauvé. Et a une plus grande dignité que l'homme avant le péché. Donc c'est à partir de ça. C'est en fixant. Donc, et c'est aussi pour ne pas perdre d'espérance. De fixer notre regard sur le Christ, vainqueur du péché et de la mort. La résurrection de Jésus est au cœur même de notre foi. Nous croyons que l'amour du Christ, son obéissance au Père, a traversé et le péché et la mort. Et nous, avec lui, nous héritons d'un amour qui est plus fort, qui est vainqueur de la mort, qui est vainqueur du mal. Et ça, je trouve, c'est la grande espérance chrétienne. Parce que précisément, c'est nous appuyant sur la résurrection du Christ, nous appuyant sur le baptême qui nous fait participer à la résurrection du Christ aussi, ben nous héritons d'un amour fort. Et on voit des personnes qui, dans cette. Voilà, singulièrement les saints, singulièrement les martyrs, etc. Mais pas que. Mais nous rappelons-nous aussi que nous ne sommes pas simplement livrés à un amour humain, mais qu'il y a un amour de charité. L'amour de charité, c'est l'amour à la manière de Dieu. C'est l'amour qui va au-delà du péché et de la mort. C'est l'amour qui triomphe de ce qui en nous hein, nous éloigne de Dieu et de nous-mêmes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La réalité du péché. Le péché est présent dans l'histoire de l'homme. Il serait vain de tenter de l'ignorer, de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu. Car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition à Dieu. Face à Dieu, tout en continuant à peser sur la vie de l'homme et de l'histoire et sur l'histoire. C'est, on comprend le mal dans la tradition judéo-chrétienne, puisqu'on partage ça avec les juifs aussi, qu'on voit ce rapport de l'homme avec Dieu, ce lien et à un moment donné ce refus. Hein, la réalité du péché et plus particulièrement du péché des origines ne s'éclaire qu'à la lumière de la révélation divine. Sans la connaissance, qu'elle nous donne de Dieu, on ne peut clairement reconnaître le péché. On est tenté de l'expliquer uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique, une erreur, une conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate. C'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme que l'on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. Voilà, c'est d'abord en contemplant le plan de Dieu qu'on comprend à quel point on a pu s'en éloigner, à quel point on a pu être tenté. On connaît cette vérité du péché originel à travers les Écritures, c'est une révélation. On connaît cette vérité du péché originel, c'est autant il y a eu une parole qui a été dite au commencement de la création, autant il y a eu un interdit dit entre, c'est ça que ça veut dire. Tu ne toucheras pas de façon... Alors le récit de la Genèse, ce n'est pas un reportage journalistique, on le sait bien, mais ce n'est pas pour ça que ça ne dit pas de grande vérité. Sous des formes imagées, ça dit, il y a eu une épreuve pour dire tu es créature, tu n'es pas Dieu, tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire tu recevras de ton Dieu ce qui est bien, ce qui est mal. Tu lui feras confiance. Un interdit. L'interdit est source de communion. Hein, c'est dit entre des personnes, voilà, tant que l'homme respectait l'interdit, eh bien, il était en communion avec Dieu. Et une société sans interdit, une famille sans interdit, etc., c'est une famille où la communion, précisément, est de plus en plus difficile. Parce que dans l'interdit, je prends conscience que je ne suis pas toi. Et je ne suis pas appelé à le devenir. Dans l'interdit, il y a cette marque de distance. Il y a Dieu et la créature, pour ce qui concerne le péché originel. Donc, c'est quelque part, c'est une garantie d'interdit, une garantie d'une communion. Et tant qu'on fait confiance à Dieu, et l'homme, tant qu'il a fait confiance à Dieu, eh bien, il a été en communion avec lui. Mais on voit bien que, on verra le tentateur, c'est... Il y a eu une tentation, nous avons été tentés. Et nous sommes tentés. Et j'allais dire particulièrement vous, dans le sens où la plupart d'entre vous, vous êtes dans la quarantaine. Vous êtes des cadres pour beaucoup, sauf quelques aînés dans la foi, comme Xavier qui nous devance tous. Mais. Et bon, on connaît bien la crise de la quarantaine, la CMV, etc. Il y a une tentation. Selon les âges de la vie, il y a des tentations qui sont très différentes. Et je pense que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, dans cette étape de... Bon, sauf il y a des plus jeunes couples qui démarrent leur vie matrimoniale, mais le gros des troupes, etc., vous êtes dans un certain nombre d'heures de vol, etc. Et puis la découverte, je veux dire, les illusions du début ont plus ou moins se sont estompées, même. Mais on va dire ça comme ça. Mais en même temps, pour donner place, justement, à un amour plus vrai, mais aussi, vous pouvez être criblé en termes de tentation. Vous pouvez dire, mais est-ce que cette parole que l'on s'est donnée, le fait de... Et cet interdit qu'on s'est prononcé l'un à l'autre, le fait de la fidélité, c'est un interdit. Vous êtes dit entre vous que vous serez uniques l'un pour l'autre. Puis on peut très bien le remettre en cause. On dit, mais est-ce que l'herbe du voisin n'est pas plus belle? Et surtout de la voisine. Et donc, du coup, voilà. Et on voit bien que les personnes sont tentées. Et surtout dans une société où, même si la fidélité fait partie du code civil, hein, mais l'adultère ne peut pas être reconnu comme une faute pour un divorce. C'est-à-dire, c'est limité à 130, par exemple, c'est limité à 90, vous passez à 130 devant les gendarmes, mais ils ne vous arrêtent pas. Alors, est-ce que ça sert à quoi de limiter à 90 quoi, c'est-à-dire que, alors que dans les textes du code civil, la fidélité est demandée. Mais on voit bien que cette fidélité, au fond, s'enracine dans une dimension chrétienne. Elle vient de la fidélité de Dieu envers nous. Mais je crois que c'est important de se dire ça. Parfois, on commence à douter de la parole qu'on a pu se donner l'un à l'autre. Et le doute, les maîtres du soupçon, hein, Karl Marx, Nietzsche et Freud, les maîtres du soupçon, de jeter un soupçon. On jette un soupçon sur la parole de l'autre et on jette un soupçon, entre autres, sur la, pour ce qui concerne le péché originel, sur la parole de Dieu. Est-ce que j'ai vraiment fait, est-ce que je fais bien de lui faire confiance? Est-ce que j'ai vraiment bien fait de le choisir, de la choisir? Et comment vient la tentation? La tentation vient par l'imaginaire. Ça vient par l'image. C'est important c'est-à-dire qu'on imagine que, en fait, c'est. Voilà, je vois, je ne sais pas quoi, le portefeuille traîné, etc. Je me dis, je vais prendre, il y a peut-être de l'argent, je vais prendre, et du coup, il y a comme une fausse promesse de bonheur, et quelque part, je serai plus heureux. Dans la tentation, il y a un faux bonheur. Mais comme on est pris par dire, du coup, on voit ce qu'on va pouvoir s'acheter en piquant dans le portefeuille, etc. Bon, du coup, on est focalisé. On ne voit pas que c'est un faux bonheur et que c'est injuste. Mais on est tenté dans l'imagination. D'où l'importance d'apaiser son imagination et de se dire peut-être aussi, ben, il y a des choses où de pas se mettre dans des conditions. Moi, je prêche souvent aux fiancés justement sur la question de la fidélité, de pas se mettre dans des conditions d'ambiguïté avec des personnes de l'autre sexe. Ça, c'est tout à fait clair. Ça, c'est parce que parce que qu'on le veuille ou non, il y a une attirance. D'autant plus s'il y a une fréquentation quotidienne, comme c'est le cas de collègues, etc. Ah, n'oubliez pas, vous passez souvent plus de temps éveillé avec vos collègues qu'avec votre propre conjoint. Alors, ce temps en couple, c'est après. vous pourrez. Mais c'est vrai, je vois les tentations dans le monde professionnel par rapport à ça. D'accompagner les jeunes fiancés, certains se sont fait carrément. Alors qu'ils avaient invité, ils pensaient que c'était un ami, qui avait reçu le faire-part, et le mec l'a demandé en mariage, alors qu'il avait reçu le faire-part, et la fille avec la bague de fiançailles au doigt. Il y en a qui, ben, on tente le tout pour le tout, mais Isabelle, il faut tenter le tout pour le tout. Donc du coup, c'est ce que vous avez fait avec Xavier, vous tentez le tout pour le tout, là. Et ça marchait. Donc du coup, voilà. Non, mais c'est important de dire ça. Voilà, et puis quand vous voyez des affiches 4x3 faisant la publicité de sites de rencontres extra-conjugales, quand ce n'est pas des applications qui vous permettent de géolocaliser des personnes disponibles, hommes ou femmes. Vous voyez, c'est d'où l'importance. Soyons modestes, soyons humbles, parce que. Comme dit Jésus, la chair est faible et l'esprit est prompt. Hein. Soyons modestes et en même temps très conscients qu'on peut chuter, on peut tenter. Et du coup, c'est important de se remettre face à sa propre parole et face à la parole de Dieu aussi, et de ne pas la négocier. C'est-à-dire que ce qui peut arriver parfois, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. Je me justifie d'agir comme j'agis. Je ne mets pas tout sur ma feuille d'impôt. Parce que je ne sais pas, j'ai une location, un bien que j'ai, un petit appartement. Bon, c'est pas énorme. Voilà, c'est au black. Voilà, bon. Et mon père, c'est qui le premier voleur? C'est l'État! Donc il y a même un dicton en Argentine qui dit hein, robar un ladrón, 100 días de perdón. C'est-à-dire que voler un voleur, c'est 100 jours de pardon. Alors, vous voyez, donc, il y a encore besoin d'évangéliser, mais voilà, on se donne, on s'autorise, et du coup on fait baisser le niveau de conscience. On s'autorise des choses et on se justifie soi-même, pour dire, je fais bien d'agir comme j'agis, hein, mais ma femme se refuse trop souvent à moi. Bon, voilà, quelque part, c'est elle qui me pousse dans les bras de l'autre. Et du coup, ce n'est pas de ma faute. Hein, comme prêtre, on entend souvent ça. Mais non, mais ce n'est pas un péché, ça c'est juste. Non, c'est d'avoir une rectitude morale et de pas baisser le niveau de conscience et d'appeler un chat, quoi. Et surtout, de ne pas se mettre dans des situations qui nous poussent à la faute. Le péché est volontaire, hein, ça c'est une des caractéristiques du péché, comme la foi aussi, elle est volontaire. Ça veut dire que il y a eu, c'est souvent, c'est pas facile de se confesser, pas facile de confesser, mais je vois qu'il y a des personnes, parce qu'on confesse des actes volontaires. Si par exemple, vous vous êtes mis en colère, mais en fait, quelque part, ça vous a submergé, il n'y a pas eu une vraie décision, etc. Bon, il n'y a pas beaucoup d'actes volontaires là-dedans. En revanche, qu'est-ce qu'il y a comme acte volontaire? C'est d'aller voir l'autre et demander pardon. Là, c'est volontaire. L'alcoolique face à la bouteille, il y a une telle part, c'est ce qu'on appelle la dépendance. Et la dépendance, c'est précisément faire baisser le niveau de liberté, donc c'est la dimension volontaire. En revanche, quand il sort de sa maison, il y a deux chemins pour aller au travail. Il y a le chemin qui passe devant le bistrot et le chemin, non. Là, je suis un peu plus libre. Et le premier pas dans la vertu, c'est-à-dire le premier pas pour sortir du vice, c'est-à-dire de cette dépendance, de cette voilà, et le plus difficile, voilà, pour rentrer, et parce que derrière toute tentation, il y a un mensonge. Et on le sait bien, le démon, c'est le maître du mensonge, le père du mensonge dès l'origine. Donc de rester, si on est dans le mensonge, on s'enferme dans le mensonge, on est vraiment dans les prisonniers de Satan, dans ses filets. Parce que par le mensonge, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et parfois on entend, dans la question de rationalisation, mais tout le monde fait ça. Oui, mais nous on n'est pas tout le monde. Oui, comme pour justifier, se justifier soi-même. On veut se ranger, voilà. Donc c'est important d'accueillir cette parole de Dieu. Alors c'est ce qu'on appelle donc cette parole de Dieu qui est exigeante, hein, qui nous invite à la communion, à respecter l'interdit, c'est-à-dire tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire, voilà, en tout cas pour ce qui est le péché originel, tu me feras confiance, tu recevras ce qui est bien et mal de ma parole, de ma bouche. Et de revenir à cette parole initiale. Et que cette parole initiale, elle est source de bonheur. Et c'est intéressant de voir que le péché originel est sous forme de nourriture. Parce que vous voyez dans d'autres récits, j'allais dire, mythologiques, etc. Bon, c'est tout à fait différent. Là, c'est vraiment une révélation. La nourriture, c'est... la nourriture qu'on a prise là au petit déjeuner, le principe c'est qu'elle devient, on assimile la nourriture, elle devient nôtre, elle devient, et dans le péché il y a quelque chose, c'est ça, vouloir rendre semblable l'autre à soi-même, assimiler l'autre, hein, les fameuses trois formes de concupiscence qui sont trois formes d'assimilation de l'autre, et donc de ne pas accueillir que l'autre soit différent de moi. Donc je pense que c'est intéressant, mais c'est ce lien profond avec Dieu, et aussi c'est important de... C'est ça, il peut y avoir un soupçon lié à la foi, ou des doutes, vous pouvez être aussi criblé par des doutes, parce que c'est vrai que c'est pas... La foi n'est pas chose facile. Les mystères de la foi dont on parle là maintenant, depuis le début de la session, c'est pas facile. Et il peut y avoir une tentation, justement, c'est ce que le pape Benoît XVI, moi j'ai beaucoup apprécié le pape Benoît XVI et le cardinal Ratzinger auparavant, dans son enseignement. Moi je vous recommande vraiment au niveau enseignement, c'est un intellectuel, c'est un universitaire, bon, je pense que c'est l'homme qui ne voulait pas être pape quelque part, mais bon, mais je trouve qu'il a donné un enseignement, un magistère qui est très intéressant. Le pape Benoît XVI, en 2005, au JMJ de Cologne, à parler du bricolage spirituel. Et on voit beaucoup ça. Hein. On prend un petit peu partout. On prend dans les sagesses de orientales, on prend dans l'ésotérisme, on prend tel que... Ah mais non, ça me convient pas. Et du coup, on fait une foi à son image et ressemblance, comme une forme de cohérence personnelle. Mais quand arrive la crise de foi, sur quoi va s'appuyer ta foi si c'est le fruit de ta propre cohérence et toi tu es en crise? Sur quoi ça va s'appuyer? Nous nous appuyons sur la foi des saints, sur la foi de l'Église. Nous rentrons dans un chemin de foi. On ne le construit pas nous-mêmes, on rentre dans un chemin de foi. On se l'approprie, oui, mais on le reçoit d'abord. Et il peut y avoir une tentation par rapport à ça, à vouloir faire le tri, parce qu'il y a des choses, bon, c'est pas tellement politiquement correct, je ne peux pas trop en parler, alors le démon, on en parle très peu dans les prédications. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas. Peut-être on en a parlé trop à une époque, c'est possible, bon, mais un peu les coups de balancier aussi, mais aujourd'hui, voilà, on dira, on édulcorera la chose, on tournera la chose pour eux. Il y a quelque chose de parfois important d'annoncer de façon claire l'évangile et la parole du Christ. Parce que c'est face à cette parole qu'on a à se prononcer. Et on voudrait accéder à Dieu quelque part sans la foi, ce désir justement de soi-même être des dieux, hein, ça a été la tentation originelle, vous serez comme des dieux, de soi-même être des dieux, hein, et de vouloir vraiment... voilà, c'est la tentation de la tour de Babel, évidemment, de rejoindre le ciel uniquement par ses propres forces, par des propres techniques, etc. etc. Oui. Ah oui, il existe, oui.
Parce que même parfois, des prêtres disent non, c'est l'absence du bien.
Oui, non. Le démon, hein, ça c'est tout à fait clair dans la foi de l'Église, etc. Puis dans les Écritures, le démon est une créature spirituelle hein, qui, entre autres, Lucifer, celui qui porte la lumière, on a vu, je pense, ça le premier jour, mais qui s'est repu de sa propre gloire, qui s'est repu de sa propre... S'il y a eu une épreuve pour vérifier la liberté de l'homme par rapport à Dieu, épreuve qui nous est transmise sous le symbole de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire, mais il y a eu une véritable épreuve. De même, il y a eu certainement une épreuve pour rapport aux anges et aux archanges d'accueillir le plan de l'incarnation. Donc, ne croyons pas, justement, c'est aussi peut-être une victoire du démon de faire croire qu'il n'existe pas. Ne croyons pas que. Vous voyez, c'est une manière d'édulcorer, parce qu'on veut être, on veut être plus audible, on veut être plus politiquement correct, on veut. Bon. C'est la part d'ombre, c'est le côté caché de la force, quoi. Bon. Côté obscur. Oui, mais c'est pas. Nous sommes tentés par des êtres spirituels, comme le démon, mais nous sommes aussi soutenus par des êtres spirituels qui sont des anges, et des anges qui nous soutiennent dans notre combat spirituel. Rentrer dans un chemin de foi, c'est éclairer sa conscience par la parole de Dieu, et c'est rentrer dans un combat spirituel intérieur. Et nous avons les armes spirituelles hein, que l'on a déjà évoquées ici, que ce sont les sacrements, la prière, la parole de Dieu, l'accompagnement, etc., qui nous soutiennent. Mais ne nous exposons pas hein, inutilement à la tentation. On sait, connaissons-nous nous-mêmes, oui, nos points de fragilité. Je sais que je suis fragile par rapport à tel... Je veux compenser par la nourriture, par la boisson, par tout ce qui est plaisir immédiat ou alors l'accumulation. On a tous nos failles et le démon nous tente là-dedans. Donc, le connais-toi toi-même de Socrate est tout à fait intéressant, mais ne nous sauve pas. Les saints, ils disent autre chose. Ils disent, méfie-toi de toi-même. Défie-toi de toi-même. Connais-toi toi-même, c'est oui, connais tes failles, et dans ces failles, tu peux être tenté. Parce que j'ai besoin de tendresse, parce que j'ai besoin de compensation, parce que j'ai besoin d'argent, parce que je... Et bien, du coup, je peux être tenté, là. voit dans les entreprises, par rapport à l'argent, par exemple, dans les entreprises, encore une fois, pas très longtemps, un chef d'entreprise me disait, voilà, on s'est aperçu de façon complètement inopinée que notre comptable nous volait depuis des années. Alors qu'il venait de vendre l'entreprise aux Américains, il y avait eu tout un audit, etc. Donc très, très, et on a été volé. Et la femme a reconnu, etc. Mais je pensais rembourser. Oui, je pensais rembourser. Mais ensuite, on rentre dans une logique de on est pris par le mensonge. Quoi. Donc, voilà, ça, je pense que c'est intéressant de méditer là-dessus. Avec la progression de la révélation est éclairée aussi la réalité du péché. Bien que le peuple de l'Ancien Testament ait connu d'une certaine manière la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut connaître le Christ comme source de grâce pour connaître Adam comme source de péché. Là où a abondé le péché, a surabondé la grâce. C'est-à-dire que on voit... C'est la lumière qui nous fait voir du Christ, qui nous fait montrer à quel point les ténèbres sont ténèbres. C'est ça que ça veut dire. C'est à la lumière du Christ, à la lumière de la vie en Dieu, la vie de l'Esprit en nous, eh bien qu'on comprend à quel point les ténèbres... Du coup, on voit bien l'absence de vie spirituelle chez nos contemporains. Les aide pas, parce que du coup, ils sont livrés. Bon, on a la conscience, vous me direz. Oui, mais quand tout le monde fait pareil... Quand on travaille, tout le monde fait pareil, quand ceci, etc. On négocie avec l'honnêteté, on négocie avec les heures de travail. On est, voilà, c'est, là aussi, soyons clairs. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'être droit, d'être juste. Vous voyez, moi, je suis assez, depuis que je suis prêtre, interloqué que beaucoup ont de péchés. Bon, beaucoup, un certain nombre tourne, surtout pour les hommes, autour de la braguette, si j'ose dire. Voilà, les hommes sont peut-être plus tentés, certains en tout cas, par bon. Mais j'ai rarement vu des gens s'accuser d'être injustes, de ne pas avoir donné à l'autre ce qui lui était dû. C'est ça la définition de la vertu de justice. J'étais injuste dans mon travail par rapport à mon patron qui me paye pour tant d'heures de travail, mais pendant ces heures-là, j'ai fait autre chose. Oui, mais tout le monde fait pareil. Oui, mais c'est pas juste. Oui, c'est la droiture. C'est pas facile d'être droit quand tout le monde, quand beaucoup sont déviés. Et je pense aussi pour vos enfants. Oui, mais maman, mais regarde un tel, t'as vu comment il fait, machin, etc. Et vous êtes soumis continuellement à ça. Vous le serez si vous êtes encore un tout jeune couple, mais... Je trouve que c'est intéressant de faire son examen de conscience par rapport à la justice, justement. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis juste, par exemple, dans le temps que je donne à chacun, des enfants, mais est-ce que je suis juste... Maintenant, nos parents vont vieillissant, etc. Bon, est-ce que je suis juste dans le temps que je donne aux parents? S'ils sont encore de ce monde, est-ce que... Voilà, c'est... d'examiner sa conscience, pas simplement sur ce qui est un peu honteux, voilà, toutes les questions de plaisir immédiat sont souvent, portent avec elles, ces questions-là, une certaine honte, donc du coup, bon, mais aussi la justice. C'est pas facile d'être juste. Rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est une vertu, et vous savez, le mot vertu, hein, vertu, ça veut dire virtus, virtutis en latin, c'est force. Mais la vertu vient par la répétition des actes. Je deviens juste, je ne nais pas juste, personne ne naît juste, personne ne naît tempérant, fort ou prudent, hein, qui sont les quatre vertus théologales, hein, comme les quatre points cardinaux, pardon, comme les quatre points cardinaux. Hein, juste un petit rappel, mais bon, vous connaissez ça par cœur. La tempérance, par tout ce qui est de plaisir, qui nous procurons un plaisir immédiat. La force par rapport à ce qui est difficile, donc c'est ce qu'on appelle le courage aussi, justice par rapport aux autres, et la prudence, c'est ce qui permet de mettre des bons moyens en fonction des bonnes fins, et de voilà, c'est les vertus cardinales. Donc la vertu de prudence qui me permet de trouver aussi le juste milieu, Qu'est-ce qui est le juste milieu? C'est la vertu de prudence. Mais du coup, on s'éclaire, on s'exerce dans la vertu. Et le premier pas dans la vertu, évidemment, est plus difficile, hein, parce qu'il faut sortir le vice à contrario et nous enfermer. Et donc, du coup, le premier pas vers une droiture d'esprit est plus difficile, c'est sûr. Je veux dire, le premier pas aussi dans le péché, quelqu'un qui tue une fois, ça doit être très difficile. Moi, j'espère pour lui, mais celui qui a tué 1000 fois, bon, voilà. Il voit même plus qu'en face de lui, il y a une personne humaine. Quoi. Il y a un aveuglement. Le péché aveugle. L'aveuglement de la conscience. Et l'Église, son rôle, c'est d'éclairer les consciences. Elle n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire. Elle éclaire les consciences. Et librement, vous positionnez. La doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. Le Christ, l'Église qui a le sens du Christ, sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Certains vous disent, mais non, c'est la société, vous connaissez la parole de Rousseau, l'homme n'est bon, mais la société le corrompt, etc. etc. Ben, du coup, progressivement, non, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être sauvé si c'est simplement une cause humaine? Cette question du salut, elle est centrale. C'est à quel point j'ai besoin de soi-même, à quel point j'ai besoin d'être sauvé? À quel point, comme je vous l'ai dit le premier jour, notre couple a besoin d'être sauvé? Que tout seul, on ne s'en sortira pas. L'épreuve de la liberté. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, oui. 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 Oui, alors c'est bien tout ce qui est... Oui. Oui, alors c'est des techniques, elles sont intéressantes, elles apportent une connaissance, elles sont très auto-centrées aussi, donc bon, avec la limite de ça, c'est assez vendeur, c'est assez bien accepté dans les entreprises, bon, l'énéagramme, parfois, moi, ce que je trouve difficile dans l'énéagramme, vous connaissez tous l'énéagramme? Ça vous dit quelque chose, l'énéagramme? C'est-à-dire qu'on dit, au fond, au niveau de la psychologie, on relève de 9 grand type, c'est des typologies de caractère, c'est de la caractérologie, quoi. 9, donc ça a été avec la difficulté peut-être de rentrer dans un déterminisme. Ben, je suis le numéro 3, donc du coup je serai comme ça. Bon, ça peut, ça. Maintenant, c'est pas ça que. Bon, si c'est pas accompagné du fait de ce que. Mais d'une finalité, vers où je dois aller? Et accompagné de la parole de Dieu qui m'interpelle, qui me. Si ce n'est pas accompagné de ça, bon, on en a une logique humaine qui n'est pas mauvaise, hein, qui, je pense qu'il peut faire du bien de se découvrir, de découvrir. Mais aussi, prenons conscience qu'on a des failles et qu'on ne s'en sortira pas seul. C'est pas juste. Et les psychologues voient bien, et quand. Comme prêtre, etc., vous êtes en cas d'accompagnement et que. Vous êtes face à des situations insolubles et il ne suffit pas juste des techniques de développement personnel. Quoi. À un moment donné, même les psychologues les plus avertis arrivent à... Voilà, l'humanité est blessée dans sa nature. Donc oui, c'est bien, et en même temps, ça doit être accompagné d'une espérance. Parce que si je vois en moi des grandes failles, est-ce quoi, je vais désespérer de moi-même? Donc connais-toi toi-même, oui, mais en même temps d'être éclairé par la parole de Dieu et d'éclairer sa conscience pour guider simplement. Je suis comme ça, c'est apprendre et à laisser, non, ou à laisser, non. C'est... Il y a quelque chose, je pense que c'est important de prendre conscience qu'il y a quelque chose en nous de cassé, quelque chose en nous qui s'oppose à Dieu. Oui, voilà. Oui, on s'abandonne à Dieu, mais faut-il encore rentrer dans une attitude de foi et de confiance? Foi et confiance, on a vu ça le premier jour. Voilà, c'est bien sûr s'abandonner. Mais justement, c'est se connais-toi toi-même n'est pas suffisant. Il faut aussi se défier de soi-même et s'en remettre à Dieu. Parce que sinon, ce n'est pas juste des techniques qui vont me sauver. Voilà. Une autre question par rapport à ça, c'est... Mais d'éclairer leur conscience, que derrière leur bêtise, il y a toujours une quête de bonheur. Quand ils montent, etc., pour chercher le pot de Nutella, et ils se posent à l'étagère, bon voilà, prenons un cas, il y a toujours une quête de bonheur. Ils voient le pot de Nutella comme brille avec les étoiles dans les yeux, et les papillons dans le ventre, etc., bon, ils se focus là-dessus, quoi. Bon, par exemple. Mais justement, de dire, ben, est-ce que tu es libre de ça aussi? Et je pense, à mesure de l'éducation, de les faire réfléchir, de dire, bon là, tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi. On voit des enfants qui sont débordés aussi par leurs émotions. Ce n'est pas des mauvais bouts, ils ont un bon fond. Je vois bien, les enfants ici, c'est juste de la crème, mais bon... parce qu'on les a peut-être plus longtemps aussi, c'est ça qui permet d'avoir un regard positif. Mais bon, toujours est-il que c'est... Voilà, c'est... Mais il y en a qui sont débordés. Justement, la connaissance de soi-même permet d'apaiser avec les méthodes vitaux, etc. C'est des outils, c'est juste de la technique. Mais aussi de dire, ben, où est-ce qu'est ton espace de liberté? Alors, il faut vous le dire avec vos mots, mais vous avez la grâce d'être parent. Et donc, où est-ce qu'est ton espace de liberté? Là, tu as tapé sur ton frère, et tu... Généralement, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? L'interpeller. Dès qu'ils arrivent, voilà, à l'étape de la préadolescence, adolescence, les interpeller, même avant, dire, est-ce que tu penses que... c'est pas en culpabilisant qu'on forme la conscience. C'est en éclairant la conscience. C'est en éclairant, en disant, est-ce que tu penses qu'il y a un autre chemin? Qu'est-ce que... Alors, à mesure qu'il est apte à comprendre, au début, voilà, on est plus directif, là aussi, l'éducation, c'est rentrer dans un chemin que vous proposez aux enfants. Vous le rentrez, ils rentrent dedans. Ensuite, eux feront leur chemin, comme vous l'avez fait par rapport à vos parents. Mais de dire, voilà, est-ce que tu as pensé qu'il y avait d'autres chemins? En quoi tu vois... que ça peut être une difficulté, en quoi tu vois que les éclairs, et de dire qu'il y a aussi une autre possibilité, il y a une espérance. Est-ce que dans ta prière, tu demandes ça, le fait d'aller demander pardon entre frères et sœurs, etc., bon, ben ça éclaire la conscience. Et là, tu as pu blesser ton frère, ta sœur, inutilement, est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que c'est, etc., les rivalités, bon, ça c'est connu, mais voilà, pour pas laisser s'enquister, parce qu'on voit parfois des adultes, des difficultés de relation qui viennent beaucoup de l'enfance. Où on a laissé des enfants s'enquister dans un conflit qui a grandi avec eux et qui vont après être devenus compliqués. Oui. C'est le travail de l'éducation. Éduquer est difficile. Éduquer, c'est conduire vers. C'est ça que ça veut dire, l'éducation. Vous conduisez vers. Du coup, il y a des choses, il y a des mauvaises habitudes de paresse, des mauvaises habitudes de mensonge. C'est très difficile face à un enfant qui ment. Oui, ou le portable, voilà. Il faut du coup, il y a tout un effort de pédagogie pour montrer en quoi c'est un bien ce que vous demandez. Et c'est ça la pédagogie. Il ne faut pas juste dire ne fais pas ça. En quoi la dépendance au portable, par exemple, leur empêche de voir autre chose. Au début, vous êtes directif, parce que aussi, justement, l'éducation, c'est montrer une direction. On dit, oui, on laisse l'enfant choisir, accompagner. Moi, je ne suis pas du tout part comme ça. Mais, oui.
L'éducation silencieuse est importante. Il ne suffit pas de dire ne fais pas ça. C'est
oui. Ah oui, par l'exemple, l'éducation par l'exemple. C'est sûr, si à table, on est collé à son portable, etc., et on dit non, toi, non, non, mais tu ne. C'est sûr que. Non, mais même des frères ont été repris à table. Voilà, voilà. Bah oui, bah, la nature a plutôt tendance à baisser, si vous voulez. Il y a la gravité, la loi de la gravité aussi morale. Donc, du coup, on va tendre plutôt vers le bas. Ben voilà, ben, du coup, on s'encourage dans le bien, dans la vertu. Et puis, on demande pardon pour nos actes manqués. Et justement, de former au premier pardon, là, pas trop tout petit, mais bon, on peut en parler ce matin entre frères, là, de. Parfois, même des petits, 5-6 ans, etc., on dit, tu entoures des choses, alors du coup, c'est peut-être pas une absolution en tant que telle, parce que bon, mais tu entoures, tu dis, qu'est-ce que tu as fait, je l'entoure, etc., puis ensuite, on fait une prière ensemble. Mais du coup, ça forme la conscience du jeune et de l'enfant, ça la forme. Et en quoi je peux aussi faire du bien. C'est pas simplement l'ivraie qu'il faut donner à contempler, mais aussi le bon grain regarde tout ce que tu as aussi en toi que de bon. C'est ce que Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Et ça aussi, c'est important d'avoir ce regard de foi aussi sur vos enfants. Ils sont à l'image, à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance, on l'a vu, on la travaille. L'image, elle reste indélébile, mais la ressemblance, on la travaille. On la travaille par les vertus, par toutes les vertus théologales, les vertus cardinales. Et tous les outils du combat spirituel. Et de leur faire prendre conscience que tu rends. Déjà, ils se sentent, à mon avis, assez isolés dans cette société, comme jeunes ou comme enfants, par rapport aux autres, même dans des écoles catholiques, même si vous les mettez dans. Etc. Mais bon, on voit bien, les écoles catholiques, parfois, c'est pas. C'est plutôt pas pour qu'ils soient tenus, qu'ils soient cadrés, qu'on les parents, mais que parce que c'est catholique. Bon. Maintenant. Avec ça, on peut donner quelque chose, mais du coup, d'où l'importance des amitiés, d'où l'importance du cadre de vie de porteur, des choses, des lieux porteurs aussi pour eux, des propositions porteuses pour eux, pour leur vie spirituelle. Et dans ce sens-là, moi, je suis très fan, quand je prépare au mariage, je dis que l'homme soit le leader spirituel de son couple. On n'est pas dans la merde. La femme, j'allais dire, est spirituelle par nature, mais par grâce, je ne sais pas, mais vous savez que l'Adam a été tiré de la glèbe, c'est le glébeux, c'est ça, Adama, ça veut dire la glèbe, c'est le boueux, quoi. Alors que Ève a été tirée d'une chair qui a déjà reçu l'esprit, et elle a double part d'esprit, pour ainsi dire. Donc on voit bien que les femmes ont une soif spirituelle, etc., mais je suis très attaché dans la préparation au mariage à ce que vous, messieurs, vous ne vous désengagiez pas. Vous êtes tout à fait légitime. Et je trouve que ça donne une autorité, ça donne une. Même si ça vous est moins code naturel et plus code naturel, le fait de produire, de faire, le fait de. Voilà, c'est aussi l'homme. Et peut-être l'homme s'est engagé parce que dans la foi catholique, il y a beaucoup de vertus, disons, de. Une valeur féminine, que ce soit la compassion, l'aide aux plus pauvres, la tendresse de Dieu, etc., etc., qui sont beaucoup des vertus féminines, je veux dire. Et du coup, beaucoup d'hommes s'y sont pas retrouvés, alors qu'il y a tout à fait matière, en contemplant le Christ, a fortiori, de le courage, l'offrande de soi, le rentrer dans une logique de don, qui peut aussi enthousiasmer un homme, et combien ? Moi, je vous encourage, messieurs, à prendre le lead spirituel de votre couple et de votre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en étant proposant, par exemple. Ben, si c'est papa qui me propose. Évidemment, en participant à la messe, mais je pense que là-dessus, je ne suis pas inquiet, mais voir son père prier, ce n'est pas pareil que voir sa mère prier. C'est pas pareil. Même si à tour de rôle, l'un ou l'autre commence la prière. Mais je trouve que ça donne, que ça assoit une autorité, ça donne une gravité au geste de la prière, et voilà, je trouve vraiment intéressant. Hein, dans la prière juive, vous savez, c'est les hommes qui président le Shabbat. Hein, donc, parce que l'homme, justement, a besoin, la première parole de l'homme, la première parole que l'homme a entendue, c'est la parole de qui? La parole de? Ah non, pas du serpent. Qu'est-ce que Adam, dans la création, intéressant. Quelle est la première parole que l'homme a entendue? La parole de Dieu. Oui, moi c'est bien, c'est une fille qui répond, c'est bien. Et quelle est la première parole qu'Ève a entendue? Non, celle d'Adam. D'où la difficulté de ces dames face à un certain mutisme de ces messieurs. Et voulant sans savoir comment tu vis les choses, raconte-moi tout par le menu, et pour l'eau dans sa grosse caverne, etc. Voilà. Mais bon, c'est vrai que la femme est une aide, créons-lui une aide qui lui soit semblable, hein, parce qu'il n'est pas dit que l'homme ait besoin, que la femme ait besoin d'être aidée, il est dit que l'homme ait besoin d'être aidé. C'est intéressant. Et donc, du coup, créons-lui une aide qui lui soit semblable, et l'aide à quoi? Elle était tirée de sa côte, voilà, elle était tirée de son désir de communion. Et elle est celle qui répond à son désir de communion. Et elle lui rappellera le primat de la communion sur l'efficacité, sur le faire, sur la rentabilité, sur le pouvoir, sur etc. Toutes choses que parfois, voilà, on est plus enclin comme homme à être dans l'action, voilà, plutôt que l'expression de ses propres émotions. Même si je pense quand un homme exprime ses propres et met la main sur ses émotions, met la main sur, je trouve que c'est, et peut les partager, je trouve ça très bon et très éducateur. Il n'en demeure pas moins, c'est plutôt une vertu féminine. Mais voilà, mais du coup, c'est important, la femme est là pour rappeler à l'homme aussi cette parole de Dieu originelle, hein, le remettre dans ce chemin quand elle-même vit comme à l'image, selon sa vocation. Hein, voilà, l'aide de l'homme est une aide pour le sortir de lui-même, hein, et l'amener dans la communion avec Dieu. Et donc c'est important de dire, vous êtes légitimes, messieurs, à être les leaders spirituels de votre couple et de votre famille, à être proposants, à pourquoi pas exprimer votre foi. On a dit, cette session sert à mettre des mots sur sa propre foi, parce que souvent... voilà, c'est plutôt de la pratique, mais il n'y a pas forcément d'explicitation, surtout à des enfants qui sont en âge de comprendre. Mais pourquoi est-ce que nous, on croit en ceci? Pourquoi? Ben, du coup, de mettre des mots là-dessus et de dire pourquoi je crois ce que je crois. Et du coup, c'est chacun faire son travail là-dessus, c'est pas spontané. Voilà. D'autres questions là-dessus, sur ces aspects de, justement, de vertu et de vice, et de... C'est un travail. Et encore une fois, il ne suffit pas... Il n'y a que Dieu, c'est ce qu'on appelle... Dieu seul a une parole performative. Ça veut dire quoi, performative? C'est qu'il dit et cela est. Mais vous dites beaucoup de choses à vos enfants et cela n'est pas. Donc... Et de même, les supérieurs disent beaucoup de choses aux frères, mais cela n'est pas, n'advient pas de par la parole du supérieur. Voilà, il faut répéter. Hein. C'est la répétition des actes. Ouais. Éduquer, c'est répéter. On répète, ouais, c'est un côté lassant, c'est vrai, mais bon, et Dieu lui-même répète, et puis, etc. etc. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Créature spirituelle, l'homme ne peut pas vivre, ne peut vivre cette amitié que sur le mode d'une libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Voilà, c'est à travers ce respect de l'interdit, je dis que je suis créature, je ne suis pas Dieu. Je dis que. Et la difficulté, c'est qu'on voit la dépendance d'avec Dieu comme une menace. Depuis le péché originel, depuis cette cassure, on voit la dépendance de Dieu comme une menace. Et c'est ça le PCC. On ne fait plus confiance à la parole de Dieu. Ce n'est plus intuitif, ce n'est plus comme une amitié entre amis. Et voilà, il y a un soupçon qui a été jeté en nous. Est-ce que vraiment ce que dit Dieu, je peux y croire? Et du coup, on voit bien que comment faire, il y a eu cet éloignement de Dieu, comment faire pour redevenir personne humaine selon le plan de Dieu, c'est toute cette dimension de retour à Dieu, et ce retour à Dieu se fera par le Christ. C'est le Christ qui reprend l'humanité, hein, dans la descente aux enfers, ce qu'on appelle la descente aux enfers, ce qui n'est pas la descente à l'enfer, mais aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts, il reprend parce qu'il est Dieu, et il a pris notre nature humaine, on a vu ça hier, il faut bien garder ça en tête, parce qu'il reprend toute l'humanité pour ramener l'humanité, l'élever et la ramener dans cette communion avec Dieu. Et de façon plus admirable, en nous faisant participants de la nature divine, alors qu'on était simplement amis. Maintenant, on devient héritier, c'est pas pareil. Un ami, c'est pas un héritier. Oui. Loi de la création, oui. Alors, on va le voir peut-être plus après, mais c'est-à-dire que je vois la création, et ça c'est tout l'aspect de l'écologie, etc., comme l'homme dans l'amitié avec Dieu recevait de Dieu la connaissance de la création et savait qu'il en était le gardien, il n'en était pas le propriétaire. Je suis les lois de la création, c'est-à-dire je prends soin aussi de la création. J'accueille la nature comme venant de Dieu et comme étant un don de Dieu, et on voit voir avec le péché originel comment il y a un certain nombre de cassures qui se sont on fera ça après le temps en couple, mais de cassures qui se sont opérées entre autres par rapport aux lois de la création. Je veux moi-même dominer sur la création sans, comme un propriétaire sans en respecter les lois. Là je voyais j'avais vu un article sur une vidéo, etc., sur le fait qu'aujourd'hui, la première route où on avait épuisé les ressources naturelles, renouvelables. Par exemple, si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait 7 planètes. Si tout le monde vivait comme les Indiens, il faudrait une demi-planète. Si comme les Français, il en faudrait 3. Respecter les lois de la création, c'est respecter que mon désir... C'est ça, la question du péché originel. Mon désir veut avoir prise sur tout, et je veux que tout soit au service de mon désir. Et à un moment donné, la création, elle se rebelle. Il y a une forme de... Parce que la création, là, pour le coup, c'est un principe de réalité. Voilà, tout ce qui... Et tout la dimension du travail du pape François avec Laudato Si, l'encyclique sur la création, c'est quelque chose de spirituel. L'homme a besoin de retrouver, mais par sa communion avec Dieu, parce qu'il découvre qu'il est créature, parce qu'il découvre que l'argent n'est pas le seul bonheur et que la course à l'argent, c'est une des formes de concupiscence, et la course au bien-être, c'est une des formes de concupiscence qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose aux autres, parce que si moi je suis confortable, forcément, s'il n'y a que 100 à partager et que moi je prends 80, c'est sûr que les autres, ils n'ont que 20 et ils sont peut-être plus nombreux que moi. Donc du coup, voilà, c'est toute la question des... Et du coup, la création finalement pâtit.
L'homme participe à la création.
L'homme participe, mais comme gardien. Il participe à la création, mais comme gardien. C'est-à-dire qu'il en est le dépositaire. Il est créature lui-même. Ça, c'est important. Mais justement, le fait de perdre de vue que je suis créature fait que je n'ai plus ce rapport avec la création comme moi-même devant rendre des comptes de comment j'utilise la création qui m'est mise à ma disposition. Il y a un obscurcissement de l'intelligence, mon désir va être premier et la création au service de mon plaisir et de mon désir. Je perds de vue que je suis créature, exactement. Je perds de vue ça, que j'ai des comptes à rendre dans la manière dont j'utilise les biens de ce monde. On a perfectionné la création. La création est inachevée, donc l'homme a été mis à la tête de la création comme celui qui la perfectionne. Hein. Mais celui aussi, je suis à l'écoute des lois de la création. Je suis d'abord un contemplatif, comme le jardinier. Je suis le jardinier de ce monde, mais en même temps, voilà, on ne fait pas pousser les tomates en tirant dessus. Il y a des lois, il y a la patience, il y a des temps, il y a des saisons, il y a des... Voilà. Et ce n'est pas pour rien que les personnes qui sont plus en lien avec la nature sont souvent plus en lien avec Dieu. Parce qu'elles apprennent, ben, la nature, elle est c'est la nature. Et donc, elle a ses lois propres, elle a ses temps propres. Alors, on veut forcer, on voit là, forcer... En Argentine, alors là, c'est les OGM, c'est plus. Alors justement, les frères se sont rebellés parce qu'on a des champs là-bas. On a plusieurs hectares. Et donc, du coup, on le donne... Bon, c'est pas notre métier d'être agriculteur. Du coup, on le donne en fermage. Et les frères disent, mais est-ce que c'est du blé OGM, etc. Et parce qu'en Argentine, il y a 2 récoltes par an, par exemple, facilement. Et donc, du coup, directement, on sème. Et du coup, on épuise les sols, etc. Et... Il faudrait laisser la jachère, justement le Shabbat, il y avait tous les 49 ans, je crois, dans la Bible, on laisse reposer la création et le Shabbat, ton fils, ta femme, ton serviteur, ton âne, etc., personne ne travaillera, tu te rappelleras que tu es Dieu. Le repos me remet dans une relation de créature à créateur. Je ne suis pas Dieu. Et le 7 sur 7, H24, que nous connaissons maintenant, c'est l'homme lui-même qui refuse le repos. Et d'un repos qui soit aussi collectif, communautaire. Le repos le dimanche, c'est pour ça que quand il y avait toute cette histoire-là avec le travail du dimanche d'érable, moi je me trouvais en grande, de façon assez improbable, mais en grande communion avec la CGT, par exemple. Donc, j'étais pas trop à culture, mais parce qu'ils disent l'homme n'est pas une machine, il a besoin de se reposer, etc. Je vais carrément dire, je me suis dit, ils vont peut-être dire, il faut même aller à la messe. Oui, parce que cette idée de repos et que la création a besoin de se reposer et que nous sommes membres de la création et que nous n'avons pas à exiger de nous-mêmes plus que ce qu'on peut donner. Et le manque de repos, hein, le repos, c'est justement l'affirmation d'un autre. C'est l'affirmation de Dieu. Oui, oui. 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 Avec le transhumanisme, par exemple. Le transhumanisme qui va faire qu'on va avoir des pièces de remplacement. Oui, c'est ce désir, comment il s'appelle Alexandre, Laurent Alexandre, vous avez entendu, qui parle du transhumanisme, etc. Il a fait une vidéo sur TEDx. TEDx, ça vous dit quelque chose des personnes qui mettent des vidéos, voilà, qui sont interviewées. Et il termine sa vidéo en disant, parmi vous, il y en a qui vivront 1000 ans. Mais au secours. Ça dépend qui, mais non, mais oui, non, mais il y a ce désir, voilà, de dépasser l'homme. Je veux dire, oui, et du coup, on va se faire des pièces de rechange, tac, tac, tac. Bon, mais derrière ça, tu seras comme un dieu, quoi. Tu seras immortel. Et ça, tôt ou tard, la création, elle paye. Parce qu'elle est livrée entre nos mains. Et je trouve que c'est très intéressant, cette question de l'écologie, etc. Alors, même s'il y a plusieurs manières de l'aborder, je ne sais pas si vous aviez vu le film Avatar. Dans le film Avatar, on voit cette question de l'écologie, un peu New Age, traitée de façon New Age. Voilà, on voit au fond le méchant humain avec les machines, c'est dans une mine, etc., etc. Et le bon peuple, voilà, qui est connecté avec la mer et tout est connecté avec les arbres. Bon, voilà, on est connecté, tout le monde est connecté. Et donc voilà. Du coup, il y a certaines visions écologistes qui disent, au fond, le problème, c'est l'homme. Donc il faut diminuer le nombre d'hommes et de femmes et de personnes humaines sur Terre. On entend ça partout. C'est ce qu'on appelle le malthusianisme. Et généralement, ce n'est pas diminuer le nombre des plus riches. Hein. C'est diminuer le nombre des plus pauvres. C'est rarement que... Voilà. Et, alors, ça pose beaucoup de questions, mais... la question démographique, etc. Mais est-ce que... on voit bien. Du coup, on va faire payer aux plus pauvres que... Ben voilà, on dit maintenant, les campagnes de stérilisation et compagnie et compagnie. On vous donnera les subventions de l'ONU que si vous faites passer l'avortement, le machin, les campagnes de stérilisation, on vous donnera l'argent.
Mais on fait ça dans les vaccins, peut-être en Afrique.
Oui, bon, peut-être dans les vaccins, si. Bon, maintenant, bon, mais, peut-être, mais bon, mais vous voyez, c'est, mais derrière ça, moi, je ne suis pas prêt, occidental, à remettre en cause mon niveau de vie.